content de voir qu'il y a des gens qui ont réussi à se lever un dimanche matin, de certains venant de loin d'ailleurs. Donc c'est impressionnant de voir ça. Et ceci d'autant plus que vous allez aborder là certainement l'exposé le plus difficile, dès le matin. Ça sera un peu technique, mais je vais essayer de rendre ça un peu plus facile. En effet, nous allons aborder la question de l'origine de la vie. C'est certainement le point le plus faible de la théorie d'évolution. Car en effet, là, malgré tous les efforts, et il y en a qui sont faits par les scientifiques évolutionnistes, ils ont des sérieuses difficultés à permettre l'explication du passage de la matière inerte à la vie. Donc, quelques rappels, c'est là que ça commence malheureusement à être un peu technique. Un être vivant n'est pas composé de la même façon que la matière que vous trouvez à l'extérieur, les pierres, l'air, l'eau, tout ça, c'est formé de molécules qui sont relativement simples. En effet, un être vivant est formé de protéines. La plus grosse partie de nos organismes vivants, qu'ils soient animaux, végétaux ou humains, sommes formés de protéines. Ça constitue donc la grosse partie de notre matière et c'est ce qui permet le fonctionnement des organismes. Il y a aussi de l'ADN et ou de l'ARN, parce qu'effectivement, il existe des organismes simples qui n'ont que de l'ARN. Il y en a d'autres qui ont les deux. Et là, ces molécules sont porteurs de l'information, sans laquelle la vie ne serait pas possible. Ensuite, il y a des membranes. Dans tout être vivant, la plus petite cellule est formée de membranes, et ces membranes sont le lieu où se font toutes ces réactions chimiques qui permettent la vie. Ensuite, vous avez des petits organites dans les cellules qu'on appelle les ribosomes, et ça c'est le lieu où se produisent les protéines. Ensuite, il faut une source d'énergie. Sans énergie, il n'y a rien qui va pouvoir se passer, donc une source d'énergie. Et enfin, pour que ce soit vraiment quelque chose de vivant, qu'on puisse le considérer comme quelque chose de vivant, il faut que ce soit capable de se reproduire. Donc il y a un système de réplication. Alors naturellement, pour que tout ceci soit réuni, il va falloir passer un certain nombre d'étapes. Et voici donc le scénario évolutionniste qui, si on devait le résumer le plus simplement possible, la vie provient de la matière non vivante. Tout le problème est d'arriver à expliquer comment c'est possible. Alors, il y a une première étape nécessaire, c'est la production des molécules organiques simples. C'est-à-dire qu'il faut passer de la chimie minérale à la chimie organique. Les molécules organiques simples sont beaucoup plus complexes que les molécules minérales. Alors, ces molécules simples, organiques simples, sont les acides aminés qui vont constituer les protéines, les sucres qui vont constituer des glucides plus complexes. Par la suite, vous avez des bases et des acides gras. Ce sont les molécules organiques les plus simples. Ensuite, il faut passer par une deuxième étape, grâce à ce qu'on appelle l'évolution chimique, et donc on va obtenir des molécules beaucoup plus grandes, beaucoup plus longues, qui vont être les constituants d'une cellule. Alors, c'est ce qu'on appelle la polymérisation, qui consiste tout simplement à lier entre elles les éléments les plus simples. Entre eux, les éléments les plus simples. Donc, pour former les protéines, il suffit d'ajouter les uns aux autres les acides aminés. Avec des sucres et certaines bases, on va pouvoir former des acides nucléiques, c'est-à-dire l'ARN et l'ADN. Et enfin, les acides gras vont permettre de produire les graisses. Donc, vous allez avoir ensuite une troisième étape qui serait donc, à partir de ces éléments, la constitution de protocellules. C'est-à-dire, ce n'est pas des vraies cellules, mais c'est ce qui annonce les cellules. Donc ces protocellules vont être un peu comme des bulles de savon, si vous voulez. Hein, ça ressemble à ça. Il y a une membrane qui se forme et il y a des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, ça ne suffit pas. Il faut passer à une quatrième étape, formation de vraies cellules. Et les cellules les plus simples que l'on connaisse aujourd'hui sont les bactéries, et encore pas les bactéries habituelles, mais les archébactéries, donc des bactéries encore plus simples que celles qu'on connaît habituellement. Elles sont vivantes, celles-là. Donc on est passé là à un système vivant. Et enfin, par l'évolution biologique, on va arriver à des êtres unicellulaires plus complexes, comme des végétaux unicellulaires ou des animaux unicellulaires. Ensuite, donc, cette évolution biologique continue, c'est le domaine de Darwin, là, et on arrive donc aux différentes plantes, aux différents animaux et à l'espèce humaine. Donc voilà le scénario. Alors, est-ce que ce scénario se passe sans anicroche, tout simplement, sans problème? C'est là que nous allons analyser la question, étape par étape. Alors, la première étape, elle est l'étape donc, au cours de laquelle vont se former donc les molécules organiques simples. Acides aminés, sucre, base, acides gras. Et donc, depuis les années 1920, donc, vous avez des scientifiques qui ont travaillé sur les questions, un russe, Oparine, un anglais, Haldane, notamment, et ils ont inventé la notion de soupe primitive. C'est-à-dire, c'est une petite mare avec de l'eau dans laquelle vont se produire les réactions qui vont permettre de produire ces substances organiques simple. Donc, elles se sont formées dans cette eau, et évidemment, cette soupe primitive peut être représentée par quelque chose de plus grand, l'océan primitif qui a pu exister sur la Terre avant qu'il y ait la vie, sous une atmosphère dite primitive, composée de gaz essentiellement provenant des volcans. Ça veut dire, entre parenthèses, une atmosphère sans oxygène. Alors, cette atmosphère primitive, ou encore prébiotique, donc avant qu'il y ait la vie, serait constituée, donc, de gaz carbonique, de monoxyde de carbone, d'ammoniac, de méthane, de vapeur d'eau. Pas d'oxygène. C'est-à-dire l'oxygène libre que nous respirons ne s'y trouve pas. Et l'énergie proviendrait des rayons ultraviolets, du tonnerre, des éclairs, de la chaleur géothermique. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, les problèmes, quels sont-ils avec cette histoire d'atmosphère primitive? Eh bien, pas d'oxygène. C'est un problème. Pour quelle raison? Eh bien, s'il n'y a pas d'oxygène, il ne peut pas y avoir d'ozone. Parce que l'ozone, ce n'est pas O2, c'est O3. Donc, s'il n'y a pas d'ozone, il n'y a pas de protection de ce qui va se former à la surface de la Terre. Donc, s'il n'y a pas de protection, au fur et à mesure que ces molécules dont je vais vous parler tout à l'heure se forment, elles risquent d'être détruites. Donc, c'est assez ennuyeux. Mais il n'y a pas d'oxygène parce que, dans le scénario, l'oxygène provient des êtres vivants végétaux qui, eux, fournissent cet oxygène. C'est eux qui produisent l'oxygène. C'est la raison pour laquelle, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il ne faut pas détruire les forêts, parce que les forêts utilisent le gaz carbonique et nous restituent l'oxygène. Donc, s'il n'y avait pas la vie au départ, donc il n'y avait pas d'oxygène, d'après ce scénario. Donc, pas de protection contre les UV, destruction des molécules organiques. Alors, aujourd'hui, la présence de l'ammoniac et du méthane est remise en question par les chercheurs. Et donc, si vous enlevez en plus le méthane et l'ammoniac, alors ça va rendre le problème encore plus difficile. Production de molécules organiques encore moins efficace. Alors la première étape, donc, synthèse de ces molécules organiques simples. Une expérience a été faite en 1953 par Miller. Et vous voyez ici, ce dispositif consiste à reproduire en laboratoire ce qui aurait pu se produire sur cette terre primitive. Alors, vous avez ici, dans ce ballon, un mélange des gaz de cette atmosphère primitive, dont je vous ai donné la composition tout à l'heure. Et l'énergie va être fournie ici par deux électrodes où on va faire jaillir une étincelle. Donc, les étincelles, ça, on peut trouver ça sur, en effet, une planète primitive comme la Terre, aucun problème. Le problème étant la composition de l'atmosphère primitive. Donc, en faisant passer donc ce mélange de gaz dans ce ballon avec de l'énergie, on va obtenir progressivement, avec du temps, il faut de la patience, un mélange de molécules organiques. Et en effet, il a bien obtenu des molécules organiques. Et évidemment, ça a été immédiatement un espoir pour les chercheurs en ce qui concerne le problème de l'origine de la vie, parce qu'ils disent, voilà, on a résolu, en partie en tout cas, cette première étape. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Miller avait obtenu quelques acides aminés. Depuis, d'autres ont suivi et ont produit, ça dépend des données, mais pratiquement presque tous les acides aminés qui existent dans le monde vivant sur notre planète. Le monde vivant est formé de 20 acides aminés. 20 acides aminés, apparemment on serait arrivé jusqu'à 19. Il en reste toujours un, qui n'est toujours pas fabriqué, mais enfin, c'est quand même, on pourrait dire, une performance, on est arrivé à quelque chose. On a obtenu aussi du glucose. Alors quand je parle d'acides aminés biologiques, il faut que je précise ce que ça veut dire. Des acides aminés, il y en a des quantités et des quantités. Seuls les biologiques sont appelés biologiques parce qu'ils rentrent dans la composition des êtres vivants. Les autres acides aminés qui ne sont pas biologiques n'entrent pas dans la... Ils sont fabriqués de toutes pièces en laboratoire, mais ils ne servent à rien. Donc, parmi tous les acides aminés qui ont été fabriqués, il y a eu donc un certain nombre d'acides aminés biologiques. Donc du glucose, ça a été très long à fabriquer, ça a été très difficile, mais ils ont fini par y arriver. Un sucre, deux sucres, le ribose et le désoxyribose, c'est des sucres qui rentrent dans la composition de l'ADN et de l'ARN. Les cinq bases des acides nucléiques, donc l'ARN et l'ADN, ils ont réussi à les faire. Mais à côté de tout ça, ils ont réussi aussi à fabriquer un grand nombre de molécules non biologiques, ce qui posera des problèmes, comme vous allez le voir. Alors, quels sont ces problèmes? Donc, il va y avoir production d'un grand nombre d'acides aminés non biologiques. Les sucres plus les acides aminés qui ne sont pas biologiques, vont faire des composés non biologiques. D'autre part, il va y avoir une production en égale quantité d'acides aminés D et d'acides aminés L. Alors, qu'est-ce que sont ces acides aminés D et L? Eh bien, c'est tout simplement la même molécule, mais avec un arrangement des atomes qui est identique mais symétrique par rapport à un plan. C'est comme vous prenez les deux mains, vos deux mains sont symétriques, en gros, en tout cas, elles sont symétriques, mais vous ne pouvez pas les superposer. Si vous les superposez, vous êtes obligé de retourner une main. Mais là, c'est pareil. C'est une question d'action sur la lumière. Les unes retournent la lumière dans un sens, les autres dans un autre. Peu importe. Mais vous avez donc ici un problème. C'est qu'en effet, dans la matière vivante, la grande majorité des acides aminés, les acides aminés sont des acides aminés L. Or, vous avez en égale quantité production d'acides aminés D. Ensuite, pour les sucres, c'est la même chose. Vous fabriquez des sucres en laboratoire qui seront des D et des L. Et le problème, c'est que dans la matière vivante, les sucres, D, l'emportent largement sur les L, qui sont quasi inexistants. Donc, il faudrait qu'il y ait un processus de sélection de ces molécules. Jusqu'à présent, on n'a jamais pu mettre en évidence un tel processus. Autrement dit, si on veut les séparer, au laboratoire, on peut le faire. Mais est-ce que, naturellement, il va y avoir un système qui va pouvoir faire ce tri? Jusqu'à présent, on n'en connaît pas. Donc, voilà ici l'image de deux acides aminés, un L et un D. Voilà donc comment ça se présente. Sachez que ce n'est pas des molécules qui sont planes. Il y en a qui sont en avant de l'écran, d'autres en arrière de l'écran, certains de ces atomes. Mais c'est exactement les mêmes, la même. C'est comme si vous aviez l'image sur un miroir de l'autre. Mais seuls les L sont présents. Encore des problèmes. C'est la survie courte de ces molécules. Au fur et à mesure qu'elles se forment, elles ne vont pas rester longtemps. D'autre part, dans la soupe primitive, elles vont être une goutte d'eau fortement diluée, donc c'est une production très faible. Il faut donc imaginer, pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne réellement par la suite, que ces mares d'eau soient dans des milieux isolés, plus restreints, comme dans des lagunes, dans des étangs ou des marécages. Donc l'océan, c'est un peu trop grand. Maintenant, il va falloir parler de la deuxième étape. Donc la première étape, si vous voulez, il y a toujours des problèmes, mais on a réussi quand même quelque chose. La deuxième étape, formation des macromolécules par polymérisation. Donc il va falloir faire en sorte que ces molécules dont je viens de vous parler se mettent ensemble. Alors il y a eu une expérience qui a été faite dans les années 60 par Fox, qui consistait à chauffer un mélange d'acides aminés purs, c'est-à-dire sans rien d'autre que des acides aminés, et en retirant l'eau, on a obtenu des polymères, c'est-à-dire des chaînes de plusieurs centaines, au moins 200 acides aminés. Donc voilà ce qu'il a réussi à obtenir. Mais vous voyez, la condition nécessaire, c'est que il n'y a rien d'autre que des acides aminés. Et deuxièmement, il faut enlever l'eau. Or, rappelez-vous, les acides aminés se sont formés dans de l'eau. Donc, pour passer à l'étape suivante, il faut enlever l'eau. Donc, d'autre part, la succession de ces acides aminés va former ce qu'on appelle un protéinoïde. Ce n'est pas une protéine, ça ressemble à une protéine, mais c'est dans un ordre totalement aléatoire. Or, vous allez voir qu'une protéine, pour qu'elle soit fonctionnelle, elle doit être formée d'une succession bien précise d'acides aminés dans un ordre extrêmement précis. Donc, en laboratoire, on n'arrive pas à faire ça. Donc, mélange d'acides aminés purs, c'est quelque chose de totalement artificiel. Donc, on ne voit pas comment, dans la nature, sans que personne n'intervienne, vous allez trouver un mélange d'acides aminés purs. Ça, c'est quelque chose qui est un hasard extraordinaire pour trouver ça. Deuxièmement, les polymères, c'est-à-dire ces ensembles d'acides aminés liés, se lient entre eux, mais ils peuvent se lier avec différents types de liaisons. C'est ce qu'on appelle des liaisons peptidiques, mais il en existe de plusieurs sortes. Il y a les liaisons alpha, qui sont celles-là. Il y a les liaisons bêta, gamma et epsilon. Quatre types de liaisons. Or, il n'y en a qu'un seul type qui est utilisé pour la matière vivante, ce sont les liaisons alpha. Donc si vous mélangez ça, vous allez avoir effectivement des chaînes d'acides aminés, mais qui vont se lier de manière totalement aléatoire avec différents types de liaisons. Et ça, ça ne va pas. Il faudrait qu'il n'y ait que des liaisons alpha. Maintenant, s'il y a des liaisons alpha, vous voyez qu'effectivement, vous avez cet acide aminé, vous le rajoutez à celui-là, et ici, ça va aboutir à la formation d'eau. C'est la raison pour laquelle ça ne peut pas se produire dans l'eau. Ceux qui ont fait un peu de chimie savent que si vous voulez obtenir quelque chose qui se lie et qui produit de l'eau, vous ne pouvez pas le faire dans l'eau. Ça ne marchera jamais. Donc c'est la raison pour laquelle il faut enlever l'eau. Et donc vous allez avoir ainsi ce polypeptide-là, ce début de chaîne protéique. Encore d'autres problèmes, la synthèse des polymères, donc est difficile en milieu aqueux, je viens de vous le dire, et c'est la raison pour laquelle on a essayé de tenter de résoudre la question, et c'est Bernal, donc, en 1950, qui a essayé de faire la même expérience, mais en ajoutant dans l'eau des minéraux d'argile. Vous savez que l'argile, si on le regarde au microscope électronique, c'est formé d'éléments planes, très très fins, et qui forment des couches comme ça, et il y a des interstices entre ces éléments. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, malgré le fait qu'il y ait de l'eau, les acides aminés pouvaient s'accrocher à ces éléments, ces minéraux d'argile, et pouvaient finalement se rajouter les uns aux autres. Cependant, donc, ça sert de catalyseur, on permet la réaction. Cependant, on s'est aperçu que le rendement est encore plus faible. Donc là, il ne faut pas espérer une production massive de polypeptides. Déjà qu'avant, ce n'était pas terrible, mais là, c'est pire encore. D'autre part, problème majeur, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la séquence, l'ordre des acides aminés est totalement aléatoire. Or, pour que ce soit fonctionnel, c'est-à-dire utilisable par un organisme vivant, il faut que l'ordre soit précis. Donc, ce ne peut être ici que quelque chose qu'on appellera des protéinoïdes, et non des protéines. Un exemple. Vous voyez ici, vous avez une enzyme. C'est une protéine, une enzyme. Les enzymes sont très importantes dans une cellule vivante. C'est elles qui permettent de produire certaines molécules absolument nécessaires à la survie de la cellule. Ici, j'ai pris cet exemple-là de cette enzyme qui permet la fabrication de l'ATP, une molécule très importante pour fournir l'énergie de la cellule. Or, l'ATP est formé d'un élément, on appelle l'ADP, ici le glucose 6-phosphate. S'il n'y a pas l'enzyme, jamais ça va se fixer. Avec l'enzyme, vous voyez que l'enzyme a une forme très particulière, schématisée, ici, grossièrement. Et cette forme dépend justement de l'ordre des acides aminés. Si l'ordre n'est pas respecté, la forme n'est plus la même. Or, vous voyez que cette forme est complémentaire de la forme de l'ADP et du glucose 6-phosphate. Donc ici, ça se fixe. Et en se fixant sur l'enzyme, les deux peuvent se fixer entre eux. Donc vous voyez qu'il faut des conditions très particulières pour que ça fonctionne. Il faut que l'ordre des acides aminés là-dedans soit le bon. Et seulement dans ce cas-là, il va pouvoir y avoir la production d'ATP. Encore des problèmes. C'est question de probabilité. On a calculé la probabilité pour la formation d'une protéine fonctionnelle. Attendez, je vais retourner trop vite. Et donc, pour calculer cette probabilité, alors, ceux qui ont fait des mathématiques, les statistiques, la joie des mathématiciens, pour qu'il y ait un acide aminé L, on a dit qu'on en produit autant de D que de L. Donc, il y a une chance sur deux qu'on tombe sur un L. Donc, la probabilité est de 0,5. C'est pas trop difficile, ça. Hein, ça va. Bon. Pour lier deux acides aminés avec une liaison peptidique alpha, en étant généreux, on va dire qu'il y a une chance sur deux pour qu'on tombe sur une liaison alpha. Donc 0,5. Ensuite, pour avoir le bon acide aminé à la bonne place, comme il y a 20 acides aminés différents, donc vous avez une probabilité de 1 sur 20, ce qui fait 0,05. Or, comme tout bon statisticien que vous êtes, vous devez vous rappeler que pour réunir toutes les mêmes conditions, il faut multiplier tout ça, toutes ces probabilités entre elles. Donc, pour réunir toutes ces conditions, vous allez donc multiplier, en négligeant d'autres substances, en admettant qu'on est dans les meilleures conditions, vous allez donc 0,5 par 0,5 par 0,05 et vous avez 0,125. Bien, pour ça, ce n'est pas encore terrible, mais... Admettons que vous vouliez additionner 100 acides aminés pour que la protéine soit fonctionnelle. Ce qui, dans la réalité, est extrêmement rare parce que les protéines sont beaucoup plus grandes que ça. 100 acides aminés, ça n'existe pratiquement pas. C'est plusieurs centaines, voire quelquefois des milliers. Donc, vous devez élever ce chiffre là à la puissance 100. Et quand vous faites des mathématiques, vous savez que si vous élevez à la puissance 100 un nombre inférieur à 0, même le nombre inférieur à 1, vous allez avoir un chiffre extrêmement petit. C'est-à-dire 4,9 multiplié par 10 puissance moins 191. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ont fait les mathématiques se rendent compte, mais je vais essayer de traduire ça par quelque chose de plus concret, ça veut dire une chance sur... Voilà. Vous avez compté 0, donc il doit y avoir 191 ou 12, je ne m'en rappelle plus, enfin peu importe. Donc c'est, hein, c'est une chance plus qu'infime. Or, comme je vous l'ai dit, c'est pas... à la puissance 100 qu'il faut le mettre, c'est à la puissance 300, 500, 1000. Alors, naturellement, statistiquement parlant, ça devient de plus en plus difficile pour que ce soit formé sans l'intervention de quiconque. Donc, la formation spontanée de protéines fonctionnelles est hautement improbable. Les évolutionnistes vous diront, oui, mais si vous avez beaucoup de temps, alors à ce moment-là, ça sera possible. Cependant, il y a des gens qui ont calculé que même les milliards d'années de la Terre ne seraient pas suffisants pour que tout ça se mette en place. Parce qu'il ne s'agit pas d'une seule protéine qu'il faut fabriquer pour qu'une une cellule, même la plus simple, soit vivante et se maintienne en vie. Il s'agit de centaines de protéines différentes. Et je n'ai pas parlé de l'ADN et de l'ARN encore. Donc, ça devient difficile à accepter. Les acides aminés, donc, c'est le même cas. On est vraiment, en sachant que les protéines et les acides nucléiques, doivent être présents en même temps dans la cellule. Il ne s'agit pas d'avoir les premiers et puis après les seconds. Il faut que les deux soient là, présents. Donc, troisième étape. Réplication de ces molécules organiques. Parce qu'il ne suffit pas qu'elles soient fabriquées une fois, il faut qu'elles puissent se reproduire. Donc il faut imaginer un système de réplication et imaginer donc son origine. Alors on a travaillé sur les surfaces minérales, il y a eu donc les minéraux d'argile de nouveau ont été impliqués. Je ne veux pas rentrer dans le détail. On a pensé à, dans les années 80, à une théorie, le monde de l'ARN, où l'ARN étant plus simple que l'ADN, les premiers êtres vivants auraient commencé grâce à des molécules simples, enfin réduites d'ARN. Bien. Il y a des problèmes. Les surfaces minérales sont des choses qui n'existent plus maintenant dans le monde vivant pour la réplication de ces molécules. Dans les cellules, ce sont des membranes organiques. Donc, comment passe-t-on de ces systèmes minéraux à ces systèmes organiques ? Pas de réponse. Le monde de l'ARN est une question difficile parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait de l'ARN, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'ARN ne peut se répliquer que lorsqu'il y a des protéines déjà. Donc, pour produire quelque chose de sérieux, il faudrait déjà des protéines. Donc, s'il n'y a que de l'ARN au départ et qu'il n'y a pas de protéines, il n'y a rien qui se produira. Donc, l'ARN prébiotique, donc avant qu'il y ait la vie, pouvait-il catalyser tous les stades des synthèses prébiotiques ? Grosse question, en tout cas, ça paraît difficile. Ensuite, la formation des protocellules. Fox, de nouveau, s'est intéressé à la question et, en effet, en mettant des protéinoïdes dans de l'eau, il a obtenu des microsphères capables de se reproduire et de croître. Qu'est-ce que c'est que ces microsphères ? Ce sont comme des bulles de savon. On sait que les bulles de savon peuvent grandir. Quelquefois, elles se divisent en deux, en plusieurs. Et puis, ça ressemble un peu à ça. Et puis, il s'est aperçu qu'effectivement, il y a des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, et dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que ça ressemble déjà, de manière extrêmement simple, à une cellule. Mais ça n'est pas vivant. Le problème donc majeur, c'est que ce sont des phénomènes physiques ici qui se produisent uniquement. Il n'y a rien d'organique, il n'y a rien de vivant. Donc les protocellules ne sont pas vivantes et on n'est toujours pas arrivé à quelque chose de vivant. Les acides nucléiques qui doivent être présents, vous voyez ici une représentation schématique de l'ADN. Vous voyez que c'est une double hélice, hein, et vous avez ici ces fameuses bases dont je vous ai parlé, et puis les sucres. Et vous allez donc avoir ainsi tout un code qui sera déterminé par l'ordre ici de ces bases. Là aussi, l'ordre est très important. Si c'est dans le désordre, le message n'est plus reconnu. Et donc, ça peut donner des choses aberrantes. Donc, il faut que l'information soit une information cohérente, qui permette la vie. Et donc, vous voyez que pour que ça se produise par hasard, là aussi, c'est un peu difficile à concevoir. Donc, dans une cellule vivante, bien sûr, ici, j'ai pris le cas d'une cellule parmi les plus complexes déjà. Mais, d'une manière générale, il faut qu'il y ait des acides nucléiques. Bon, ici, c'est de l'ADN. Cet ADN-là ne va pouvoir se répliquer que grâce à des protéines qui lui permettent cette réplication. Mais les protéines, elles, ont besoin de l'ADN pour se former. Donc, c'est une espèce de cercle, je dirais pas vicieux, puisque ça marche très bien, mais, si vous voulez, les protéines, et il y en a divers modèles, sont absolument nécessaires pour les ADN, et les ADN sont absolument indispensables pour les protéines. Donc, il faut qu'il y ait les deux en même temps. réponse au problème de l'origine de la vie. Alors, devant ces difficultés énormes, l'ultra-darwiniste dont je vous ai parlé hier, Dawkins, a dit ceci, qui est tout à fait extraordinaire: nous savons que la vie est née ici-bas, puisqu'on la constate, hein, on est là, donc elle ne peut pas être aussi improbable que ça. C'est une réponse scientifique extraordinaire. Alors, naturellement, il ne s'est quand même pas totalement contenté de ça. Il a essayé de donner des explications. Il a beaucoup fait de modèles informatiques et tenté de voir un peu comment ça a pu se passer. Mais enfin, c'est quand même un peu léger. Quand même un peu léger. Je ne dois quand même pas vous laisser penser que les évolutionnistes vont se croiser les bras en disant ça seulement. Ils travaillent sur la question, ils travaillent d'arrache-pied, ils sont extrêmement courageux parce que, à mon avis, c'est mon avis, ils sont en train de courir derrière quelque chose qui est quasiment impossible. Mais enfin, ils continuent. Et je dirais même que c'est normal qu'ils continuent. Un scientifique doit chercher une réponse à un problème scientifique. C'est normal. Faut aller le plus loin possible. Ça, c'est indéniable. Alors, je ne dis pas qu'un jour, ils n'arriveront pas à progresser encore. Est-ce qu'ils arriveront à trouver jusqu'au bout toutes les réponses à tous les problèmes? Ça, c'est une autre affaire. Alors, vous avez un compatriote de Dure qui, lui, résout la question autrement. Il dit: la vie est une manifestation obligatoire de la matière, tenu de se reproduire là où les conditions sont appropriées. C'est-à-dire que si vous avez les bonnes conditions réunies, eh bien la matière va donner obligatoirement la vie. Bon, alors, naturellement, c'est une affirmation, il ne va pas non plus se contenter de cette affirmation, mais je veux dire par là que on ressent un certain embarras quand même, malgré tout. Crick, prix Nobel, un de ceux qui a, avec Watson, reconstitué la molécule d'ADN. C'est lui qui est à l'origine de la théorie de la panspermie dirigée. Ça veut dire que les premières formes de vie ont évolué quelque part dans l'univers et ont été amenées sur la Terre et ont réussi donc à évoluer pour donner la diversité que l'on connaît sur notre planète. Autrement dit, ça ne s'est pas passé sur Terre, il parle de miracle, c'est un vrai miracle, mais ça s'est passé ailleurs. Cependant, ça n'est que repousser le problème ailleurs, puisqu'il faudrait expliquer ça ailleurs. Mais les conditions sont peut-être différentes ailleurs, plus favorables, etc., etc. Mais bon, c'est quand même un peu esquiver aussi le problème. Mais ça vous montre que quand même, ils sont conscients de la difficulté, ça c'est clair, hein. Évident. Conclusion. Il y a deux attitudes possibles. Soit on admet que certains problèmes n'ont encore pas de réponse dans le paradigme naturaliste, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'intervention du surnaturel, donc, et à ce moment-là, donc, on espère qu'on trouvera la solution. Et ça me paraît une attitude pour un scientifique qui peut être normale. Jusqu'où on peut le faire, c'est la question. Ou accepter la possibilité d'une intelligence supérieure, capable de concevoir le premier être vivant. Car en effet, vous voyez, devant toutes ces difficultés, on a, rappelez-vous, Paley qui parlait de la montre, qui lui faisait penser immédiatement à un horloger. Quand vous voyez la complexité autrement plus élevée du monde vivant par rapport à une montre, eh bien forcément, vous commencez à vous poser la question: est-ce qu'il n'y aurait pas une intelligence supérieure qui serait à l'origine de ça? Cependant, il faut quand même admettre que si vous en arrivez à cette solution-là, la deuxième, vous l'acceptez un peu, soit par défaut, parce que vous n'avez pas trouvé la solution avant,
soit vous l'acceptez par la foi, parce que vous êtes croyant en un Dieu créateur. Mais sachez que, au moment où vous dites c'est une intelligence supérieure qui l'a fait, vous n'êtes plus dans le domaine scientifique. Donc il faut bien admettre ça. N'oublions jamais que la science ne peut pas parler de Dieu. C'est impossible. La science peut progresser, peut arriver à des impossibilités, et à ce moment-là, vous dites, ben voilà, Dieu peut être là derrière. Mais là, vous ne parlez plus en tant que scientifique. C'est différent. Donc voilà, cette première étape, cette première exposée, la question du problème de la vie.